Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Après le Brexit et en pleine pandémie, comment l'Europe aborde-t-elle l'année 2021? Côté vaccin contre le Covid, elle a pris les choses en main, mais il lui faut encore gagner la bataille à l'échelle du continent. Le plan de relance de 750 milliards d'euros va-t-il arriver à temps pour remettre l'économie européenne sur les rails? Qui va succéder cet automne à Angela Merkel? Un Européen convaincu ou quelqu'un de, on va dire, un peu plus sceptique? Quid de l'unité des 27? Elle a été réelle pendant les négociations du Brexit, mais désormais. Et enfin, quelle ambition l'Union européenne aura-t-elle face aux États-Unis et à la Chine? Saura-t-elle affirmer et développer une autonomie stratégique? Autant de paris et de questions qui permettront ou pas une plus grande solidarité entre les Européens et une meilleure intégration de l'Europe. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints et qui vont tenter de répondre à toutes ces questions. C'est pas si facile que ça. Bonjour, Botard, Margarida Marques.
Boutard, bonjour.
Vous êtes eurodéputée socialiste portugaise et vous avez été, il y a quelques années, ancien ministre des Affaires européennes de votre pays, le Portugal. Stefan Seelendorf, bonjour, guten Tag.
Bien, schönen guten Tag.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg et vous êtes en ligne de Strasbourg. Emmanuel Rivière, bonjour.
Bonjour.
Directeur du Centre Kantar sur le futur de l'Europe, ben vous nous donnerez tout à l'heure votre point de vue sur ce que pensent les Européens de l'Europe, que vous étudiez évidemment très scrupuleusement. Et à mes côtés, Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France. On le dit à chaque fois, le mouvement européen, vraiment en quelques mots à chaque fois, pour que ça rentre un petit peu, qu'on le sache un peu mieux.
Sur l'Europe, de la pédagogie, du débat, des propositions, et depuis maintenant 70 ans.
Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Beniamino Moranta. Alors, Yves Bertoncini, l'Europe a connu deux secousses en 2020. L'une était prévisible, c'est l'aboutissement du Brexit. L'autre, non, c'est évidemment la pandémie du Covid. Alors, nous allons revenir au cours de cette émission sur ces deux événements majeurs de l'année 2020 qui préfigurent ce que devrait ou pourrait être l'année 2021 en Europe. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ça avait plutôt mal commencé. Côté Brexit, des négociations qui n'avançaient guère. Côté Covid, un grand cafouillage. Alors, on va pas revenir dans tous les détails, mais fermeture des frontières chaotiques, guéguerre autour des masques, une présidence tournante croate de l'Union européenne inexistante. Alors, à la fois, la présidence tournante, c'est pas très important, puis on verra que quand c'est un pays plus important qui prend l'initiative, ça peut l'être. Bref, une Union européenne sidérée, un repli national quasi général, qui a priori a pu s'expliquer.
Dans les crises, il y a un réflexe effectivement émotionnel, et les émotions sont assez liées aux bonnes vieilles frontières nationales, même si, comme jadis d'ailleurs la ligne Maginot, elles ne servent pas à grand-chose pour endiguer l'ennemi, surtout quand c'est un virus. Bon, simplement, oui, on a vu dans un premier temps, face à ces crises, et notamment évidemment la crise sanitaire, la crise du Covid, une réaction émotionnelle et donc plutôt nationale. Sauf que, assez rapidement, les institutions européennes ont fait ce qu'elles avaient à faire, notamment sur leur cœur de compétence, c'est-à-dire l'économie, la finance, hein, c'est-à-dire la Banque centrale est intervenue, la Commission européenne a assoupli les règles sur les aides d'État, les déficits, pour laisser les États faire. Il y a eu aussi des initiatives comme le programme de chômage, soutien au chômage partiel, SURE, et ainsi de suite. Et puis, dans un deuxième temps, le plan de relance, ce qu'il y a, et qui est évidemment marquant et inédit, et qu'il faut, et c'est le grand défi de cette année, mettre en œuvre.
Maintenant. Évidemment, on va en parler longuement.
En parallèle du budget, ça c'est plus classique. Où les choses ont patiné davantage, c'est sur le cœur de compétence des États. Puisque si la réaction émotionnelle est nationale, et les compétences, par exemple, en matière sanitaire, sont nationales, et parfois même régionales, eh bien là, il y a une sorte d'ordre dispersé qui se met en place, des retours au contrôle aux frontières qui sont tout à fait possibles, mais enfin qui ont été faits de manière désordonnée. Alors Dieu merci pour positiver. Chemin faisant, il y a quand même un réflexe unitaire, notamment pour l'achat de vaccins, parce que là, on est en plein dedans. Le fait de se grouper pour essayer d'acquérir des vaccins plutôt que de le faire en ordre dispersé, ça a permis de les avoir de manière plus massive, à des prix plus bas, avec une répartition équilibrée pour faire face à un virus qui de toute façon est partout en Europe et donc il faut traiter de manière équilibrée en même temps.
Marc-Adrien Marques, soudain, le thème de la santé qui n'était pas et qui n'est toujours pas une compétence européenne s'est petit à petit imposé. Alors, comment avez-vous vécu ces premiers mois de la pandémie au Portugal? Le Portugal ayant été relativement épargné par la première vague du Covid. On a vu des stocks stratégiques de masques qui ont été mis en place par l'Union européenne, des respirateurs, une prise en charge des malades par des pays débordés, par des pays relativement épargnés. Comment vous avez vécu ça au Portugal? C'est-à-dire, le Portugal, c'est toujours un pays un peu périphérique de l'Union européenne.
Effectivement, le Portugal, maintenant, ces jours-là, a une situation très complexe parce que l'aspect santé s'est un peu détérioré avec plus de gens qui sont contaminés récemment, les derniers jours. Et justement, hier, le gouvernement a remis le confinement qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Il y avait des règles de contrôle très strictes, mais maintenant, il y aura effectivement des mesures plus strict. Mais j'aimerais surtout, pour répondre à une question que vous avez soulevée pendant votre introduction, le grand défi de l'Union européenne en 2021. Effectivement, pour moi, le grand défi de l'Union européenne en 2021, c'est de mettre en place la réponse européenne à la crise. C'est-à-dire, l'Union européenne, les États membres, les institutions européennes ont beaucoup travaillé pour se mettre d'accord pour la construction d'une réponse européenne à la crise. D'abord, la réponse santé, comme vous avez déjà dit, mais aussi la réponse économique. C'est-à-dire, toutes les économies des États membres sont dans une situation très, très difficile. Les États membres ont dû répondre simultanément aux besoins santé, mais aussi protéger les gens du chômage, protéger les entreprises. Et donc, on a eu besoin de mobiliser beaucoup d'argent et la réponse européenne est très importante. Vous avez déjà identifié les principaux programmes qui ont été créés. Mais j'aimerais surtout valoriser la réponse européenne avec le fonds de relance, avec le Next Generation EU, comme nous disons, utilisant la terminologie britannique encore. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement hier, le gouvernement portugais a approuvé le besoin qu'il faut que tous les États membres ratifient la création de ce fonds.
Alors, ce qui est important, ce qui est important, c'est que le gouvernement portugais, le Portugal, a pris la tête le 1er janvier dernier de ce qu'on appelle la présidence tournante de l'Union européenne. C'est donc le Portugal et Lisbonne qui vont donner un peu le là de des six premiers mois lors des initiatives que l'Union européenne prendra. C'est pour ça que c'est important que le gouvernement portugais s'est affirmé sur ce sujet. Petite parenthèse, Marques.
Hier même, le gouvernement a approuvé la possibilité pour donner à la Commission européenne la possibilité d'aller au marché. Et justement, c'est un exemple, comme vous avez dit, il faut que les États membres puissent ratifier ce fonds. Mais ce qui est important, ça on peut dire, bon, c'est la démocratie a fonctionné, oui c'est vrai, mais pour les citoyens, c'est le besoin que les citoyens ont de comprendre que la réponse européenne arrive aux États membres pour relancer l'économie, pour appuyer les plans de récupération économique et sociale. Parce que nous ne pouvons pas oublier l'impact social qui a été créé avec cette pandémie, qui a, dans certains États membres, augmenté les inégalités existantes dans les États membres. Et donc, ce que les citoyens attendent, c'est quand est-ce que la réponse européenne va arriver chez nous?
Alors, évidemment, l'Union européenne, c'est toujours plutôt un paquebot. Hein. Il faut un peu de temps pour que les décisions se mettent en place. Elles sont difficiles à le prendre. Elles se prennent à 27, puis après, il faut que ça se mette en place. On a compris que c'était un peu difficile, mais que ça se faisait. Évidemment, la question sera de savoir si ça se fera à temps. Stéphane Seydendorf, tant Yves Bertoncini que Margarida Marques ont expliqué que l'Union européenne avait plutôt réagi, hein. Peut-être avec un certain temps de retard, mais finalement, au regard de l'histoire, ce sera probablement peu de choses. Donc face à la catastrophe économique qui a surgi dans le prolongement des déconfinements, avec des entreprises qui ont travaillé au ralenti, parfois à l'arrêt, des salariés au chômage, ou en tout cas chômage partiel, ou chômage partiel, partout il y a eu des plans de sauvegarde qui ont été mis en place partout en Europe pour essayer de limiter les dégâts, financés tantôt par des initiatives de la BCE et la Banque Centrale Européenne, et puis ce fameux plan de relance de 750 milliards qui se met en place, avec quand même une grande nouveauté historique, c'est que ce plan de 750 milliards, von Zehlendorf, il va être financé par un emprunt commun, ce qui veut dire que pour la première fois de son histoire, l'Union Européenne a admis qu'il fallait avoir une dette commune. Et si ça a été possible, c'est qu'il y a eu un changement décisif de la chancelière Angela Merkel qui, pendant des mois et des années, refusait cette idée, malgré la pression notamment d'Emmanuel Macron. Donc si c'est passé tout ça, c'est quand même parce que l'Allemagne a changé, Stefan Zehlendorf.
Oui, voilà, et c'est peut-être ce qu'on va retenir de cette crise dans quelques années, qu'il y a la naissance d'une véritable solidarité commune qui sort de cette crise. Il faudrait voir comment ce programme est mis en œuvre, mais si on regarde l'année passée, 2020, c'est très intéressant de constater ce tournant dans la politique allemande et dans la politique d'Angela Merkel. Hein. Si on se souvient, elle a connu les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, et puis pendant toute cette longue gouvernance à la tête de l'Allemagne, à son corps défendant, elle insistait que jamais il y aurait une mise en commun de la dette, une dette commune, un financement de moyens européens à travers une dette garantie par tous les pays membres, et évidemment garantie d'abord par les plus grands et les plus performants. Encore au mois de mars, elle avait laissé entendre que les fameux Corona Bonds, l'idée d'avoir une dette, un programme lié à cette crise de santé, ça se fera pas avec elle. Et puis, au mois de mai, très classique, hein, une initiative franco-allemande, une annonce ensemble avec le président français que l'Allemagne et la France allaient désormais proposer ce fonds de reconstruction, de relance. Et comme dans le passé aussi, peut-être un peu plus compliqué que dans le passé, mais quand même, les autres pays membres, ils ont dû se ranger soit du côté allemand, soit du côté français, du compromis, mais en gros, même ceux qu'on a traités comme radins, les pays qui n'étaient pas très chauds quant à l'idée de soutenir cette proposition, en fin de compte, accepté ce compromis et on est sorti avec quelque chose de entièrement nouveau. Et c'est un peu comme souvent quand il y a une grande crise, que après des problèmes, après des nationalismes, après le réflexe de d'abord réagir avec des visions un peu égoïstes, il y a une solution européenne qui s'impose et il faut espérer que pour l'année à venir, on ne perdrait pas l'élan que cela a créé dans la deuxième moitié de 2020.
Alors il y a une évolution de la chancelière Merkel qui peut peut-être avoir aussi deux explications peut-être un peu psychologiques. D'abord, c'est l'Allemagne qui a eu la présidence tournante de l'Union européenne au deuxième semestre de l'année 2020, à partir entre le 1er juillet et le 31 décembre. Et puis c'est aussi la dernière, les six derniers mois d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne, puisque lors des élections de l'automne prochain, elle ne se représentera pas. Donc, est-ce que dans ce changement historique de la position allemande, le fait que peut-être qu'Angela Merkel a voulu laisser une trace dans l'histoire de l'Europe, est-ce que c'est, selon vous, ça a une influence ou pas?
Difficile, il faudrait regarder dans sa tête.
Dans la tête d'Angela Merkel, c'est ça.
Voilà. Jusque-là, elle a toujours laissé entendre que les traces dans l'histoire, pour elle, c'est plutôt le propre des politiques masculins, machistes un peu, et que les femmes sont plus intelligentes et plus pragmatiques, et à la fin, on regardera le bilan. Non, je pense plus sérieusement que pendant la crise du printemps, elle a eu un moment très lucide, souvent dans son long règne à la tête de l'Allemagne, elle a compris plus rapidement que d'autres quand les étoiles, les planètes s'alignent, quand une constellation devient possible, elle a vu qu'il y avait une marge de manœuvre pour imposer ça qui est révolutionnaire pour l'Allemagne et pour son propre parti, pour son gouvernement et pour son propre parti, hein, il ne faut pas l'oublier, en quelques semaines. Pratiquement, le tournant s'est fait. Wolfgang Schäuble, vous vous souvenez, l'ancien ministre des Finances qui était toujours viscéralement opposé à toute...
On va dire psychorigide d'un point de vue français, on va dire ça.
ça va un peu loin, hein, c'est votre signification, mais votre vocable. Mais même lui, il a acheté la proposition d'Angela Merkel, il l'a soutenue comme il pouvait à la tête du Parlement. Désormais, il a organisé la majorité au Bundestag. Le partenaire dans la coalition, les sociaux-démocrates, qui étaient très prudents sur tout ce qui concernait la politique européenne, ils avaient leur grand moment. Le ministre de la Finance, Olaf Scholz, il a pu négocier les détails avec Bruno Le Maire avant de présenter le plan. Donc, il y avait une constellation qui permettait, dans la crise, d'aller de l'avant. Mais un deuxième aspect encore, sur la scène européenne et en France notamment, on a un peu oublié les détails que Angela Merkel elle avait évoqués quand elle a présenté le plan. Pour elle et pour son parti, il est très important de comprendre que c'est un programme unique qui est très précisément limité dans le temps. Si vous regardez les détails des conclusions du sommet, on a déjà la date à laquelle la somme sera entièrement remboursée, quelque part en 2053, je crois. Donc c'est très allemand, vous allez me dire, mais c'est aussi cette idée que c'est un fonds d'urgence, une aide d'urgence, et que ce n'est pas quelque chose qui aura vocation à rester. On verra si ça c'est comme ça, mais dans la vision d'Angela Merkel et de son parti, c'est ça, hein, il faut bien comprendre.
Il vient en Chine, ce que vient de dire Stefan Sinnendorf, c'est qu'à situation exceptionnelle, il y a des décisions exceptionnelles qui sont prises, mais qu'on va peut-être revenir à des choses plus habituelles. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Stefan Sinnendorf, qui évidemment connaît bien la psychologie des politiques allemandes.
Il y a un malentendu, mais fécond, aux origines de ce plan de relance qui était nécessaire et qui est bienvenu. Et on peut dire merci à l'Allemagne et merci à Madame Merkel. La solidarité, les Allemands en font preuve depuis l'origine, de manière permanente, via le budget européen. C'est évidemment de leur intérêt, certes, mais parce que le marché européen leur bénéficie. Mais ça fait très longtemps qu'ils sont les plus gros contributeurs nets du budget communautaire. Et le prochain qui vient d'être adopté ne fera pas exception à la règle. Alors, ce qui s'est passé au moment où a été adopté le plan de relance, c'est qu'on s'est aperçu, et notamment avec l'arrêt de la cour de Karlsruhe, qu'il y avait aussi beaucoup de solidarité non dite, indirecte, implicite, qui était mise en œuvre via les interventions de la Banque Centrale Européenne, notamment depuis que Mario Draghi en avait pris la tête. Et donc, c'est d'ailleurs très très loin des termes du contrat de mariage au moment du passage à l'euro. Et ça irrite beaucoup de voix en Allemagne. Et la cour de Karlsruhe a fini par dire « ça suffit maintenant ». Alors du coup, puisqu'on ne pouvait plus être solidaire de cette manière-là, puisqu'on ne pouvait pas l'être non plus via le budget communautaire, parce que par exemple, pour aider un pays comme l'Italie, ça n'aurait été d'aucun effet. Les Italiens sont des contributeurs nets eux aussi au budget communautaire. Eh bien, il a fallu inventer autre chose. Autre chose qui ne soit pas le mécanisme européen de stabilité, pour venir à votre question. Le mécanisme européen de stabilité, c'était face à des circonstances exceptionnelles, hein, les difficultés de l'Irlande, de la Grèce, du Portugal et de Chypre, le mécanisme qu'on avait mis en place pour lever de l'argent sur les marchés et les prêter à ces pays. Et donc, c'est pas la première fois, hein, quand on dit que c'est la première fois que les Européens empruntent ensemble. Simplement, cette fois-ci, on emprunte pour subventionner. Ça, c'est la première fois. On emprunte pour subventionner. Et c'est ce qu'ont voulu faire les Européens à l'initiative de la France, de la Commission, et avec l'acceptation de l'Allemagne. Maintenant, j'en viens au fond du sujet. C'est vrai que si on regarde les choses dans la perspective historique, on a fait des plans de sauvetage exceptionnels pour aider dans des circonstances exceptionnelles, quatre pays en difficulté qui aujourd'hui vont mieux et sont revenus sur les marchés et donc c'est fini. Et je crois que beaucoup d'Européens se disent que c'est exactement la même chose pour le plan de relance. On fait un effort exceptionnel sur 3 ans, on remboursera sur presque 50 ans et ensuite on ferme la parenthèse. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres Européens, notamment dans notre pays en France, y compris au plus haut niveau, qui pensent pas du tout comme ça, qui pensent qu'on a ouvert une trappe, qu'enfin on peut créer de la dette européenne et que peut-être on la remboursera je dirais le plus tard possible ou peut-être même que comme on le fait en France d'ailleurs, à notre grand débit, à mon avis, on prend des dettes pour rembourser celles qui viennent à échéance et
ça
ainsi
nous,
de suite.
Ça nous promet des conseils européens dans les années et les décennies à venir.
Absolument. On sortira de ce malentendu, de cette ambiguïté en tout cas dans quelques temps, mais ce n'est pas le moment.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, quelle Europe en 2021? Nous sommes avec Margarida Marques, elle est eurodéputée socialiste portugaise et ancienne ministre des Affaires européennes, avec Stefan Seydendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, avec Emmanuel Rivière, directeur du Centre Kantar sur le futur de l'Europe, et avec Yves Bertoncini, conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France. Margarida Marques, l'autre événement évidemment qui a marqué cette année 2020 et qui aura des influences, forcément des conséquences en 2021 pour l'Europe, c'est le Brexit. Un accord signé à l'arraché le 24 décembre qui sauvegarde, je résume un peu, l'essentiel des intérêts des Européens et notamment des pêcheurs. Jusqu'au bout, à la grande surprise des Britanniques, les Européens ont été unis et entre parenthèses, s'il n'y avait pas eu le Brexit, est-ce qu'il aurait pu y avoir ce fameux plan de relance de 750 milliards, Margarida Marques?
Voilà, si je peux encore, j'aimerais faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit sur le fonds de relance.
Un petit commentaire.
Un petit commentaire, voilà, parce que moi j'étais négociateur du côté du Parlement européen pour le budget de l'Union européenne. J'aimerais, bien évidemment, c'est une seule situation, c'est-à-dire le fonds de relance, c'est pour un temps limité, 3 ans, pour une situation exceptionnelle, une fois. D'accord avec les traités, donc ça a été la seule possibilité juridique pour le faire. Mais Lagarde, Christine Lagarde, a déjà dit que peut-être c'est pas suffisant. Il faut le répéter dans le futur pour des situations exceptionnelles ou si par hasard il n'est pas suffisant. Il faut rappeler, bon, elle est aussi française, mais elle a dit dans son chapeau de présidente de la Banque Centrale Européenne. Sur le Brexit, vous avez complètement raison. Je pense que l'Union Européenne a réussi à avoir une position forte avec le Royaume-Uni pour les négociations, pour les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce que l'Union européenne a réussi à se maintenir unie depuis le début. Et ça a été un exercice difficile, parce que le référendum a eu lieu en 2016, donc ça fait du temps, et l'Union européenne s'est toujours présentée unie. Mais il faut aussi rappeler et valoriser le rôle qu'a joué Michel Barnier. Il a été très déterminé, donc vous savez qu'il ne représente pas la même famille politique que moi, mais il a été très déterminé, très ciblé, et finalement, on a réussi à avoir cet accord. Il y a des innovations, par exemple, pour la première fois dans un accord commercial, il y a la possibilité d'avoir des sanctions. Si par hasard les standards sociaux, environnementaux, etc. ne sont pas respectés, ça existe. Mais il y a encore des choses, des points de difficulté que le Parlement trouve et le Parlement européen va voter le consentement à cet accord après un débat interne à l'intérieur du Parlement européen. Parce que c'est un accord très important. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi à l'avoir. Et ça, c'est le premier, parce que, vous l'avez déjà dit, mais la situation catastrophique dans les frontières, celles qui sont plus évidentes, mais il y a d'autres qui sont vraiment difficiles pour le futur. Et je dois regretter le fait que le Royaume-Uni a décidé de rester à l'extérieur du programme Erasmus.
On a compris.
Ça, c'est mauvais pour les jeunes du continent. Et pour les jeunes britanniques.
Margarida Marques, on a compris que, tant du point de vue du Brexit que du point de vue du Covid, il y a eu quand même une prise de conscience des Européens qu'au-delà des divergences, des bisbilles qu'il peut y avoir, il y avait la nécessité de rester groupés, car c'était aussi peut-être, et d'abord, la survie de l'Union Européenne. En tout cas, Emmanuel Rivière, vous êtes le directeur du Centre Kantar sur le futur de l'Europe, on ne vous a pas encore entendu, mais voilà, ça va être votre tour de vous exprimer. Vous qui, jour après jour, observez scrupuleusement l'opinion européenne, européenne, Brexit, Covid, quelle perception les Européens ont-ils eu de ces deux grands phénomènes et puis de l'action de l'Europe d'une manière plus générale? Est-ce qu'on en sait déjà un peu plus? L'Union européenne, c'est 27 pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont des histoires différentes et forcément des perceptions différentes.
Je vais peut-être commencer par le Brexit pour répondre à la question. Et je pense que pour les opinions publiques, cette histoire-là était déjà un peu derrière nous. Je pense que les gens ont décroché il y a un an à peu près, ou de la saison 3 ou 4 de cette série sans fin.
Il faut dire que c'était vraiment un feuilleton, on n'en voyait pas la fin, on comprend. Voilà, c'était un petit peu au-delà des meilleures séries télévisuelles dans un premier temps.
Voilà. Lorsqu'on interrogeait il y a un an les opinions, en fait, ils pensaient que, évidemment, c'était une histoire majoritairement triste, une mauvaise chose pour l'Europe, sans doute préjudiciable à la Grande-Bretagne et aux Britanniques dans un premier chef. Peut-être à certains pays, là il y avait des contrastes, les Irlandais évidemment pensaient que ce serait préjudiciable à leur pays, également les Polonais, mais c'était assez peu le cas en France, en Espagne et en Allemagne, mais surtout avec un peu l'envie qu'on en finisse. Et je trouve que c'est intéressant de revisiter un peu du coup l'histoire de ces cinq années, parce que finalement la plus grande conséquence du Brexit comme élément frappant, c'était immédiatement après le référendum, à un moment où effectivement ça été vécu comme une crise. Et si on regarde un certain nombre de grands indicateurs depuis 5 ans, et notamment le sentiment que la démocratie fonctionne en Europe, le sentiment que l'appartenance à l'Europe est une bonne chose, l'image même de l'Union européenne, en moyenne des 27 pays actuels, ça s'est plutôt amélioré. L'expression qui a été plusieurs fois utilisée de wake up call, espèce de sonnette d'alarme qui a finalement permis de se reposer plus fondamentalement les questions du bienfait d'être au sein de l'Union européenne et de ses bénéfices, a semble-t-il plutôt fonctionné positivement, et d'ailleurs est un peu à rebours d'ailleurs de tout ce qu'on annonçait comme étant une espèce d'effet domino, forcément il y aurait un autre pays qui serait sur les rangs. Je crois que d'ailleurs la lassitude à l'égard du feuilleton a un peu dissuadé de tenter l'aventure, et les élections européennes d'ailleurs de l'an dernier ont finalement, enfin il y a 2 ans bientôt, ont montré que le Brexit n'avait pas tant que ça fragilisé l'édifice. En raccourci, une histoire un peu similaire finalement sur la crise Covid, c'est assez mitigé. Hein. Quand on demande, on l'a fait pour le Parlement européen, il y a 2 mois, s'ils étaient satisfaits des actions, des mesures prises par l'Union européenne contre l'épidémie, les citoyens sont partagés, une petite moitié se déclare satisfait, une moitié exactement se déclare insatisfait, là encore de forts contrastes entre pays, mais d'autres indicateurs, notamment l'indicateur d'image qu'on a suivi à peu près tous les 2 mois, n'a fait que s'améliorer d'une dizaine de points en moyenne européenne. Et je crois que de ce point de vue-là, on est passé un petit peu à côté de la catastrophe. C'est-à-dire que il y a eu d'abord un sentiment très prégnant, notamment en Italie, qui était le pays le plus sévèrement touché par l'épidémie au début, d'abandon qui le rappelait de très très mauvais souvenirs, notamment des souvenirs de la crise migratoire de 2015. Sentiment d'être un peu laissé tout seul. Des exemples pas très reluisants des faux criants de solidarité avec ces cargaisons de masques qu'on se chaparde joyeusement sur les tarmacs d'aéroports. Et ce scénario aurait pu être aggravé, parce que je pense que les opinions publiques étaient à ce moment-là très très attentives à ce qui allait se passer et à la capacité de la machine européenne à s'ébrouiller un peu, se mettre en marche. Et de fait, quand il y a eu ces disputes autour de la mise en place de l'accord européen et du plan de relance, je pense qu'on est passé près de la catastrophe si ça n'avait pas marché. Parce que ça aurait rappelé d'autres épisodes qui eux aussi ont été extrêmement impactants, notamment les dissensions qui ont été très fortement mises à jour au moment de la gestion de la crise des dettes souveraines. Le fait qu'on soit passé par-dessus ça, le fait que des 2/3 des citoyens européens disent « oui, j'ai entendu parler de mesures prises par l'Europe », j'aurais tendance à dire que
oui, à ce stade, on a à la fois le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est pas si facile que ça, de donner à voir une action de cette nature-là, et que ça allait plutôt dans le bon sens. Donc les défis restent colossaux, mais pour rester sur une note positive, je dirais que, en tout cas, il aurait pu se passer des choses infiniment plus préjudiciables à la crédibilité de l'Union européenne. Et avec la crise épidémique, ben, finalement, on a rajouté un ingrédient à ce mécanisme qui donne à voir et qui aux citoyens européens qui ont un intérêt à être nombreux, à se coordonner, qui sont le fait qu'il y ait des défis, qu'ils soient des défis globaux, le défi climatique en est un, le défi migratoire en est un autre, la fragilisation du monde, le côté instable de certaines grandes régions du monde donne aussi aux gens le sentiment qu'il vaut mieux être ensemble dans un espace un petit peu cohérent et qui partage un certain nombre de valeurs. Mais voilà, le fait qu'on ait rajouté une menace globale qui est la pandémie a donné une raison de plus pour se dire qu'on a raison d'être ensemble.
Merci Emmanuel Rivière pour ces précisions. Alors, Stéphane Zinnendorf, nous sommes le 17 janvier 2010. Vers quelle Europe allons-nous ? Le Brexit est un peu derrière nous. Le Covid va hypothéquer encore nos vies pendant des mois, mais nous pouvons raisonnablement espérer que la vaccination de masse porte ses fruits. Restons prudents, bien sûr. Il va falloir relancer l'économie. Il y a le plan de relance de 750 milliards qui devrait aider les choses au cours de cette année 2021 et probablement dans le deuxième semestre de cette année. Et nous sommes à 3 jours de l'investiture de Joe Biden. Alors même si on peut imaginer que sa courtoisie n'aura rien à voir avec celle de Donald Trump, les États-Unis continueront à s'éloigner de l'Europe et ça pose évidemment la question de quelle peut être la place de l'Europe au sein de ce monde qui évolue entre ces deux grands pôles qui sont les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, avec la tentation, notamment en Allemagne, hein, ça a été évoqué par la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, de dire, bah finalement, ouf, ça a été un passage difficile avec Donald Trump, mais on va revenir aux bonnes vieilles habitudes avec Joe Biden, on va pouvoir de nouveau s'appuyer sur le fameux parapluie américain pour une question de sécurité et de défense. Qu'en dit-on, qu'en pense-t-on du côté allemand, Stéphane Zinnendorf, de la place de l'Europe dans le monde, ce qui, à un moment ou à un autre, pose la question, est-ce que l'Europe n'est qu'un grand marché, et aujourd'hui le plus grand marché au monde, ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'Europe doit s'affirmer davantage en tant que puissance géopolitique ?
Tout d'abord, il ne faut pas oublier de où nous venons. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de la polycrise de l'Europe et l'élément géopolitique y était pour quelque chose. Ensuite, il y avait l'élection de la présidence von der Leyen et elle avait annoncé tout au début de son mandat que ce sera une commission géopolitique. Nous avons eu les différentes prises de parole, les idées proposées par le président français et tout ce débat autour de l'autonomie stratégique européenne. Et la question, c'est déjà, est-ce qu'entre Européens et entre Français et en Allemands, on comprend à peu près la même chose quand on parle d'autonomie stratégique européenne. Déjà là, je pense qu'on a plutôt affaire à un grand malentendu et certainement, c'est bien qu'on se parle, même si c'est par médias interposés, c'est-à-dire qu'on publie quelque chose et quelqu'un d'autre répond dans un autre média.
Mais alors, mettons les différences sur la table.
Une sorte de discussion. Une grande différence porte certainement sur le rôle de l'OTAN, quel rôle l'OTAN elle joue. Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est encore une femme, comme tout à l'heure pour Angela Merkel, elle a tout sauf une attitude héroïque, c'est plutôt très pragmatique et très down to earth en anglais. Hein. Dans sa réponse à Emmanuel Macron, elle a clairement dit que nous dépendons des États-Unis pour notre sécurité et que pour l'avenir proche, ce sera encore le cas et que d'ailleurs, c'est peut-être même pas si mauvais. Mais elle a dit quelque chose qui est peut-être plus intéressant pour ce débat franco-allemand. Elle a aussi dit pour maintenir cette protection américaine et cette coopération avec les États-Unis, il faudra faire plus en tant qu'Européen et en tant qu'Allemand pour notre défense. Donc, elle n'est pas si loin du fond de la réflexion du président français, qui voulait aussi que les Européens se mettent ensemble pour moderniser, se donner plus de moyens, réfléchir comment ils pourront établir une politique de sécurité et de défense commune. Selon moi, pourquoi
mais
c'est
est-ce que l'Allemagne a franchement envie de devenir, enfin, à travers l'Europe, une puissance qui compte et pas simplement une puissance marchande?
Voilà, pourquoi c'est si difficile. Il y a de ce débat-là. Et ensuite, évidemment, c'est la question, c'est quelle sorte de puissance nous voulons être. Est-ce que ce sera une force par la norme, par les puissances marchandes, comme on dit un peu, avec un peu de criticisme, ou est-ce qu'on va vraiment se mettre d'accord à se donner des moyens de mener une politique de puissance qui inclut la force militaire. Mais ensuite, pourquoi faire? Et c'est là où nous avons encore du chemin à faire entre Européens. Est-ce que ce seront les plus grands, l'Allemagne et notamment la France, qui vont décider où est-ce que nous allons envoyer nos forces européennes? Ou est-ce que nous aurons des instruments institutionnels, comme sur la politique monétaire, comme sur la politique économique, pour nous mettre d'accord? Quels sont les objectifs de l'Europe et qu'est-ce qui est dans notre intérêt? Est-ce que c'est dans notre intérêt d'intervenir au Mali? Moi, personnellement, je suis convaincu que oui. Mais comment nous pouvons discuter, nous mettre d'accord que c'est la bonne politique et de quelle manière il faut la mener? Avec quels soldats, avec quels instruments? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'accord franco-allemand ni européen là-dessus. Et ceci explique aussi le sentiment français ensuite un certain abandon dans les
sentiment
du Mali.
D'isolement. On l'a compris, on va revenir là-dessus bien évidemment, mais ce qui va déterminer l'année européenne, ce sont aussi les prochaines élections, et d'abord en Allemagne, avec le départ annoncé d'Angela Merkel. Alors nous allons faire un petit détour, comme chaque semaine, par la rédaction de Courrier International. Bonjour Benjamin Lemorant.
Bonjour Daniel.
L'hebdomadaire italien Espresso s'interroge aussi sur le devenir de l'Europe en 2020 sous le prisme des élections à venir. Autrement dit, comment les équilibres du vieux continent vont évoluer dans les 12 mois à venir?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas une, mais bien deux élections décisives qui vont avoir lieu cette année en Europe. La première, c'est celle qui se tiendra aux Pays-Bas en mars. Et la deuxième, c'est celle qui va avoir lieu en Allemagne à l'automne 2021. Aux Pays-Bas, c'est le leader du Parti libéral, Mark Rutte, celui que l'hebdomadaire italien définit l'homme de glace, l'actuel Premier ministre, qui va devoir se défendre de l'assaut du populiste d'extrême droite, Geert Wilders. En fait, déjà, lors de ce premier duel, celui-ci va donner le ton de ce qui se passera à l'échelle du continent dans les années à venir. C'est-à-dire en gros celle que l'Espresso définit une bataille entre les populistes d'un côté et les européistes de l'autre. Qui va gagner cette bataille, me demanderez-vous? Selon l'article, ce qui est positif pour une fois, les européistes ont le vent en poupe en ce moment. Rutte devrait s'imposer selon les prévisions de l'hebdomadaire et plus tard en octobre, la CDU-CSU devrait triompher en Allemagne, même sans Merkel qui ne se représentera pas. Puis, en 2022, ce sera au tour de deux autres scrutins décisifs. Il y aura d'abord la Hongrie, où Orban est en tête, comme d'habitude, mais pour une fois, il risque la défaite, parce que les oppositions se sont léguées ensemble, ce qui est inédit. Et bien sûr, après, il y a la France. Si Le Pen ne gagne pas, les chances d'avoir encore de nombreux gouvernements européistes sont grandes, se félicite l'Espresso. Alors, vous allez me demander, quel est le problème? Le problème, c'est que l'Europe risque d'avoir un long vide de pouvoir. Car l'Union européenne a toujours été guidée par un couple. Mais ce couple, comme on le sait tous, c'est le couple franco-allemand. Or, dans les mois à venir, Merkel d'abord et Macron ensuite seront complètement absorbés par leurs campagnes électorales respectives. Qui donnera l'impulsion au vieux continent à ce moment-là?
Merci Benjamin Lemorant, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Yves Bertoncini, à travers ces élections, et qui sera le successeur d'Angela Merkel, bon, c'est un peu tôt pour en avoir une petite idée, enfin comme d'habitude, il y aura une coalition gouvernementale en Allemagne. Il faut peut-être revenir sur cette question. Je veux dire, entre les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre, quelle place les Européens peuvent-ils avoir? Et pour défendre quoi, comme l'évoquait Stéphane Seydendorf, qu'est-ce que les Européens ont à défendre? On parle évidemment des valeurs européennes, mais dans ce monde qui devient de plus en plus refermé sur lui-même, autoritaire, bon, on peut rappeler quand même que les Européens, c'est 450 millions d'habitants, puisque les Britanniques sont partis. Quel est le plus grand ensemble démocratique à la surface du globe, dans un monde de plus en plus autoritaire, avec évidemment la Chine, qui est évidemment la plus grande dictature du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. Alors, quelle peut être la place de l'Europe dans ce monde Et pour défendre quoi?
La place de l'Europe à cette à la table, dans ce trio que vous venez d'évoquer avec les Américains et les Chinois, la place de l'Europe, oui. David Cameron disait « on est plus forts ensemble ». On verra d'ailleurs si les Britanniques, bonne chance à eux, seront à la table, maintenant qu'ils ont choisi démocratiquement de sortir. Nous sommes à 27 maintenant, par notre unité, on peut défendre des intérêts propres, des valeurs peut-être aussi, un modèle de développement économique, social, environnemental, mais encore une fois, plus prosaïquement, des intérêts. Quand, par exemple, dans notre voisinage immédiat, il y a beaucoup de crises sécuritaires qui peuvent engendrer de la déstabilisation, des flux migratoires, des trafics de toutes sortes, à ce moment-là, les Chinois et les Américains n'en subissent pas les conséquences directes. Nous, oui. Donc, il faut qu'on prenne les choses en main, y compris parce que nos amis américains sont nos alliés. Les Chinois ne sont pas nos alliés. Parfois, ne veulent pas nous y aider. Barack Obama n'avait pas envie de nous aider à intervenir en Syrie quand il aurait fallu le faire, ou encore moins en Libye. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les Européens soient unis et qu'en même temps, dans ce trio, ils mesurent bien qu'ils ne sont pas complètement à équidistance. Évidemment, il y a une interdépendance économique avec les États-Unis et avec la Chine, mais du point de vue stratégique, nous sommes alliés au sein de l'OTAN. Et donc, sur ce concept d'autonomie stratégique, pour le coup, à mon avis, dans ce contexte, on est typiquement face à un malentendu, mais stérile, pas fécond, une ambiguïté négative. C'est un peu comme quand on parlait de gouvernement économique à la fin des années 90, on a perdu 15 ans avec ça. Puisque nous, Français, on voulait le gouvernement économique et que les Allemands comprenaient qu'on voulait mettre sous tutelle la Banque centrale. Bon, alors, arrêtons de parler d'autonomie stratégique, parlons de renforcer le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Ça, c'est un concept tout à fait basique. Et effectivement, ça permettra que les Européens se musquent, qu'ils prennent un peu plus leur destin en main, comme l'a dit la chancelière Merkel, et qu'ils puissent faire face de temps à autre, seuls, en effet, de manière autonome, à des conflits, notamment dans leur voisinage immédiat, avec peut-être un soutien de l'Amérique de Joe Biden à l'arrière, mais en tout cas pas en première ligne. Et pour faire ça, je crois que la France a une responsabilité particulière, y compris après le Brexit, parce que ça reste l'un des pays, le pays leader maintenant en matière diplomatico-militaire. Et que la France doit faire des efforts, pas aller chercher querelle sur des concepts, elle doit faire des efforts pour comprendre que, franchement, quand on regarde les interventions militaires, y compris en Libye, est-ce que, vu de loin, ça a l'air efficace ? Même chose en Afghanistan, en Irak, d'ailleurs. Ben non, pas vraiment. Et donc, il faut convaincre. Il y a aussi un autre sujet qui est un sujet, je dirais, politique, parlementaire. En France, un homme seul peut décider d'envoyer des troupes au Mali dans la nuit sans qu'il y ait de débat au Parlement avant plusieurs semaines et même pas de vote. Ça passe pas dans les autres pays d'Europe. Donc, il faut un peu qu'on se rapproche dans nos pratiques, même si c'est efficace, certes, c'est réactif, mais dans des pratiques de légitimation. Et puis après, il y a un dernier enjeu, mais ça, c'est en meilleure voie, je dirais, c'est l'enjeu industriel. Il faut des coopérations industrielles pour construire ensemble des outils, et ça donnera envie de les acheter, puisqu'ils auront été fabriqués, je pense aux chars, aux avions, mais ça prendra du temps. Et d'une manière générale, c'est un horizon pour les Européens. On est plus fort ensemble. C'est pas la Commission géopolitique, c'est l'Union géopolitique. Il est temps de tenir les promesses de Maastricht, c'est-à-dire le deuxième et le troisième pilier de Maastricht, coopération policière, judiciaire, et aussi politique étrangère et de sécurité commune. À l'époque, il n'y avait pas de défi. Maintenant, il y en a, donc relevons-les ensemble.
Margaret Marques, on se rapproche du terme de cette émission. C'est le Portugal qui préside pour 6 mois l'Union européenne. Le Portugal, évidemment, regarde le monde depuis très 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 longtemps, hein, puisque une grande partie de ce monde a été découvert par les Portugais. Évidemment, on regarde vers l'Atlantique et on s'appuie sur l'Europe. Quand on se pose cette question, hein, quand on pose la question à un Portugais, à une Portugaise, quelle est la place de l'Europe dans le monde ? Quelle est cette place vue de Lisbonne ?
Oui, voilà, Portugal a effectivement une situation privilégiée du point de vue de l'Euro-Atlantique. Et du point de vue géostratégique. Et Portugal a toujours joué ce rôle. Et c'est intéressant que cette dimension, la dimension de valoriser le rôle de l'Union européenne dans le monde, c'est une dimension qui est très présente dans l'agenda politique de la présidence portugaise de l'Union européenne. Bien évidemment, toutes les présidences, y compris la présidence portugaise, doivent respecter l'agenda politique normal européenne, mais justement, c'est une des deux dimensions que le Portugal a valorisées dans son agenda. Et c'est pourquoi le Portugal va organiser la conférence Union européenne et Landes, justement, pas dans le sens atlantique, mais avec l'Asie, justement pour valoriser cette dimension de la présence européenne dans le monde. Mais j'aimerais, à propos de cette question, soulever deux points. D'abord, ce qui est important avec cette administration Biden, c'est que la question du multilatéralisme revient. Parce que effectivement, la précédente administration américaine a toujours joué contre le multilatéralisme. Et donc, on a envie que le multilatéralisme revienne sur la table. Et ça, c'est très important. Du même en ce qui concerne le triangle Union européenne-Chine-États-Unis. Bien évidemment, l'Union européenne vient de compléter, vient d'accorder un accord d'investissement avec la Chine. C'était nécessaire, c'est la façon de protéger l'investissement européen en Chine, parce que l'investissement chinois en Europe s'était protégé. Il n'y avait pas une situation de réciprocité. Mais il y a des questions qui peuvent être soulevées. La première, c'est la question du respect des droits des citoyens. Et l'autre question, c'est on a négocié 7 ans et on a fait cet accord 1 mois avant que la nouvelle administration européenne soit en place. Donc, effectivement, ce triangle doit fonctionner du point de vue géostratégique. Mais encore sur l'agenda de la présidence portugaise, au-delà de valoriser la fonction géostratégique de l'Union européenne, il y a aussi la dimension sociale. Et c'est pourquoi la présidence portugaise va faire, je peux dire, le parcours de Gothenburg à Porto. Pourquoi ? Parce qu'à Gothenburg, il y a 3 ans, en Suède, on a proclamé le pilier européen des droits sociaux. Et justement, cette conférence à Porto va faire pas seulement le bilan de ce parcours, mais aussi prendre des décisions politique pour valoriser la dimension sociale.
Et ce sera au mois de mai, Margarida Marques. Alors, vraiment d'un mot, mais vraiment très très court, Emmanuel Rivière, alors on a parlé un petit peu du passé, 2021, quand on scrute, comme vous le faites, l'opinion européenne, quelles sont un peu les perspectives, comment les Européens finalement voient un peu l'Europe en 2021 et comment ils le voient dans les mois et les années à venir. Vraiment, alors, en 45
trois
secondes.
Trois mots, mais très courts. L'épidémie a créé des attentes, donc le problème et le défi, c'est qu'il y a évidemment un risque de déception si on ne voit pas les effets notables, notamment du plan relance sur la restauration de nos économies. Et de ce point de vue-là, on voit déjà se profiler dans les opinions publiques des clivages. Autant il y a une réponse assez consensuelle pour dire que l'Union devra avoir davantage de responsabilités pour faire face aux crises pandémiques. Quand on pose la question est-ce que l'Union devra avoir davantage de moyens financiers pour le faire, là, il commence à y avoir un net clivage et un certain nombre de pays, un tiers des pays, pas loin d'un tiers des pays qui s'y opposent, au premier rang desquels les pays dits frugaux. Alors, je ne sais pas si ce sera un malentendu fécond ou compliqué, pour reprendre les expressions d'Yves, mais là, il y a un risque et puis le risque qui se profile derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait après, notamment par rapport à ces divergences qu'on a eues avec les critères de convergence économique. Donc ce sera une des difficultés, ce sera d'accorder les violons sur ces sujets-là avec des opinions qui manifestent encore une vraie divergence sur ces enjeux.
L'Europe dans toute sa diversité que vous avez résumée. Merci. Danke, obrigado à tous les quatre. Margarida Marques, Stefan Seydendorf, Emmanuel Rivière, Yves Bertoncini d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Benjamin Morand de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, le site rfi.fr, rubrique podcast. Et vous pouvez évidemment vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée. Et par exemple, Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.